Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour, bonjour. Il était tôt, c'était à la fraîche, même s'il faisait plutôt chaud. Petit déjeuner, le nez dans le thé, consultation des premières infos. Et là, je tombe sur une vidéo où un homme en bras de chemise, cravate et gilet de costume me parle. Il a l'air très en forme et tape dans ses mains.
Bonjour à toutes et tous. Nous sommes le 21 juillet, il est 4h30 du matin.
Comment fait-il pour éclater un site santé à Bruxelles après des nuits blanches de négociations? Comment fait-il? C'était juste avant le deal pour être si pimpant. Et au fait, que veut-il?
Mais je n'oublie pas que c'est aussi la fête nationale belge. Et donc je voulais adresser un message d'amitié à tous nos amis belges. Merci de nous accueillir si régulièrement pour nos sommets, nos conseils européens. Merci aussi pour l'amitié qui unit nos deux peuples.
Ah d'accord. Tôt ce matin, j'ai donc appris deux choses. C'est aujourd'hui la fête nationale belge. Et à 4h30 du matin, Emmanuel Macron pète la forme. Au menu ce matin de Culture Média, deux journalistes qui déchirent leur carte de presse. Laurent Geoffrin quitte le journal Libération qu'il dirigeait pour fonder un mouvement de recomposition de la gauche. Patrick de Carolis a été élu maire d'Arles. Les deux sont avec nous. Enfin, des ados qui parlent cash en ligne sur arte.fr, la web-série Tu préfères. Nous sommes avec les deux réalisatrices du projet. Côté culture, après 10 heures, découvrez le chanteur, auteur, compositeur, producteur Hervé. Son premier album Hyper, chanson française sur rythme électro, est l'une des sensations de l'été. Belle matinée à vous sous le soleil. Culture Média commence maintenant. Bonjour Martin Cangelosi.
Bonjour Pascal, vous buvez donc du thé le matin?
Ouais.
Bonjour à tous.
Et vous avez une belle chemise blanche, vous avez rendez-vous cet après-midi?
J'ai fait un effort pour vous, hier vous m'avez dit que j'étais mal réveillé dans mon t-shirt noir un peu...
Ah mais j'ai pas dit mal habillé.
Mais ça allait avec, j'ai fait un effort pour vous ce matin.
Et ben c'est réussi, place au journal des médias Martin, au sommaire ce matin.
Et bien ce matin justement on se met à nu, on se dévoile pour séduire le CSA, encore une fois. Et on s'effeuille sur papier glacé parce que c'est un télo aussi de se dénuder.
Mais c'est l'heure des audiences.
Et les audiences hier soir, gros carton pour M6 avec cette comédie de José Garcia à fond. 4 millions de téléspectateurs, 20% du public. Alors TF1 forcément est juste deuxième avec sa série Camping Paradis, 3 millions de téléspectateurs. Et puis pour fermer ce podium, France 2 avec sa série Motive, le mobile du crime, 2,5 millions de téléspectateurs dans France 2.
Culture Média. Et d'abord Martin, les auditions pour le futur président de France Télé qui ont commencé.
Et hier, c'était un peu les auditions des outsiders. Alors tout a commencé dès 9h dans une salle du CSA, la moquette grise, un peu datée et éclairée par des lumières bien peu flatteuses pour les candidats tellement que la lumière n'était pas belle. La première à passer sur le grill, c'était Sandrine Roustan, ex-patronne de France 4. Elle a été limogée de France 4 au début des années 2010. Depuis, elle travaille pour un autre groupe audiovisuel, un groupe chinois, et travaille à l'étranger. Forcément, ça l'a inspiré. Sandrine Roustan veut renommer France Télé en France Média Vision. Écoutez.
Il faut bien se rendre compte que l'appellation télévision n'est plus très de notre époque. En tout cas, à l'étranger, télévision, TV, n'est pratiquement plus utilisé. On parle de networks, on parle de plateformes, on parle de broadcasters, on parle de channels.
Broadcasters, c'est presque plus compliqué à dire que broadcasters. Renommé France Télé. Michel Goldstein, lui, journaliste sportif maison, deuxième à être auditionné, n'y pense pas. Mais le deuxième candidat est quand même d'accord sur une chose. La télé, ce n'est pas que de la télé. Et France Télé doit absolument sortir du téléviseur pour séduire les jeunes. Bon alors, vous allez l'entendre, pour faire revenir les jeunes, ils citent tout de même l'émission préférée de leurs grands-parents.
C'est l'émission Question pour un champion, qui a été diffusée sur la chaîne du streamer Étoile, un étudiant de 23 ans en école d'ingénieur. Et dans le cadre des Nuits de la Culture qu'il organise, Étoile a convié Samuel Etienne à le rejoindre en streaming.
C'est impressionnant. Ça, c'était le matin et ça a continué évidemment encore tout l'après-midi, Martin.
À 14h, les sages du CSA rentrent de déjeuner. Ils remettent leur masque pour écouter Serge Chic. Alors lui, c'est un peu le revanchard. Il y a 5 ans, il essaye déjà de devenir le capitaine du paquebot France TV. Depuis, il bosse pour Radio France et dans son oral, forcément, beaucoup de ponts entre les deux groupes. D'où cette petite phrase, France 2 doit être ce qu'est France Inter à la radio. Et pour Serge Chic, cela passe même par une possible suppression de la publicité. Écoutez.
Il ne s'agit ni d'augmenter le volume global de publicité, ni bien sûr de réintroduire la publicité autour des programmes pour enfants, mais de réfléchir à son efficacité.
17h15 maintenant, place au cousin belge en cette veille de fête nationale belge, Jean-Paul Philippot, c'est le patron de la RTBF, la télé belge, l'équivalent donc de France Télé en pays plat. Forcément, il veut appliquer un peu les mêmes recettes que chez nos voisins.
France Télévisions et France 3 n'est pas synonyme de proximité au sens global du terme. Il y a là un vrai chantier. Alors je viens de Belgique, pour nous la proximité c'est quand on a fait 50 km.
4 premières auditions hier, 4 dernières aujourd'hui avec un duel à distance très attendu. Ernotte, la reine actuelle, et Baldelli, celui qui voudrait être roi. On vous en parle demain.
Autre chose, le retour d'un magazine mythique.
Playboy, New Look est en kiosque demain partout en France. Alors cette fois-ci, fini le papier un peu cheap qu'on glissait à dos sous son matelas. Playboy, désormais, c'est un MOOC, vous savez, un hybride entre un magazine au papier glacé et un livre. Bref, c'est chic. À la une jeune inconnue, une franco-belge, c'est encore une belge de 23 ans. Elle s'appelle Ilona. Elle travaille dans un resto près d'Annecy et elle nous dit pourquoi elle a accepté de ne garder que son chapeau et ses lunettes de soleil pour être l'égérie de ce nouveau Playboy.
Et un jour, je me suis lancée, on s'est fait ça au bord d'une piscine, j'ai dit « Allez, je suis tentée de faire du nu avec un beau chapeau ». Et ça s'est super bien passé, j'étais hyper à l'aise vu que ça fait un moment qu'on shoot ensemble. Et ouais, faire la couverture Playboy, c'est fou, j'aurais jamais pensé, et puis lui non plus d'ailleurs. C'est hyper valorisant d'être en couverture de Playboy. Et puis ça me fait bizarre parce que c'est que des femmes connues d'habitude avec une belle poitrine.
Ilona qui nous parlait de son photographe habituel, parce que oui, Ilona aussi elle en parle et elle a des petits seins. Désormais, pour pastifier une chanson de Pierre Perret, il y a dans Playboy des petits, des gros, des qui tombent, des qui ne tombent pas, des jeunes, des vieux seins. Bref, Playboy grandit avec son temps, ce n'est plus la femme. Mais les femmes, et c'est aussi des articles de fond. Il y a une interview archive de Bill Gates ou encore une grosse enquête sur le dark web. Alors on a bien été obligé de poser cette question à Jean-Christophe Florentin, nouvel éditeur de ce Playboy 2020. Playboy est-il devenu un magazine intello ?
Il l'a toujours été un petit peu. Dans les années 80, c'était un journal super branché. Les filles étaient un petit peu cerise sur le gâteau, on va dire. Les playmates, c'était pas l'essentiel de l'ADN du magazine. C'était vraiment un journal branché. C'était un journal qui parlait du monde de la nuit, qui mettait en scène des nouveaux talents, qui parlait des businessmen de demain, qui sont devenus tous des stars. C'était le premier journal interviewé Bill Gates aux États-Unis. C'est pas parce qu'on est un mâle testostéroné, c'est-à-dire normalement constitué, que l'on doit être un barbare.
Je vous ai vu faire un peu la moue, Pascal.
Du tout.
Mais j'ai tout de même compté sur les quelques 210 pages de ce nouveau Playboy. Il y en a 83 qui mettent en avant des femmes nues. C'est moins de la moitié et c'est à découvrir demain dans tous les kiosques partout en France.
Mais c'est encore beaucoup. Combien d'hommes nus ?
Aucun.
Ah bah c'est ça. À demain, Martin. Musique pour mon titre du jour, cheveux longs et pantalons pas de def. Voici les Bee Gees sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Il n'y a pas de bonne solution dans ce jeu-là. Autant demander, tu préfères la peste ou le choléra ? Tu préfères web-série actuellement en ligne sur arte.fr. Deux garçons, deux filles, 16 ans, scène de vie, ils discutent, ils se vannent sur le fond de tu préfères manger du porc ou ne plus jamais voir ta mère. C'est l'occasion de parler de tout, sexe, amour, famille, religion. Deux créatrices et réalisatrices sont avec nous en studio. Tu préfères Lisa Coca ou Romane Guéret ? Ben les deux. Bonjour Lise, bonjour Romane.
Bonjour.
10 épisodes de Tu préfères en ligne. Quel type de réaction recevez-vous pour cette web-série ? Parce que ce qui est tout de suite frappant, et ce qui fait également le ton et le charme, ce sont les dialogues très cash, très crus, assez vrais pour tout dire. Vous recevez des messages qui disent « Oh, bah, je suis choquée, non ?»
Nous, personnellement, Romane. Non, assez peu. Mm-hmm. Après, on s'est amusé à... Comme une partie de la série est diffusée sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de réactions. Et ce qui est assez drôle à voir, c'est qu'au sein des commentaires, il y a beaucoup de débats. Donc beaucoup de
débats sur...
Ça crée du débat,
sur quoi,
en
alors,
fait.
Les débats
sur les mêmes débats que les enfants, mm-hmm. où les gens ne sont pas d'accord.
Enfin, les ados. On dit les ados à cet âge-là, non ?
Oui, les ados.
Ouais, 16 ans.
C'est vrai.
Mais oui, c'est vrai qu'il y a les débats des épisodes qui sont un peu recréés sur les réseaux et c'est drôle parce que voilà, les gens sont on voit que les gens sont super impliqués dans ce qu'ils reçoivent de la série et qui parlent des personnages comme si c'était d'un coup leurs meilleurs amis. Et nous, c'est assez étrange pour nous, d'un coup, cette mise à distance entre cet objet qu'on a porté pendant des mois et qui était à la vue de personne. Et puis d'un coup, le fait que cette série appartienne à tous, c'est étrange, mais c'est très joyeux.
Avant de nous intéresser à votre démarche, on va écouter De quoi on parle, tu préfères, 10 épisodes extraits.
Tu préfères faire un taf qui t'aime bien de ouf, mais tu gagnes un SMIC, ou avoir 10 000 euros par mois, mais tu fais un taf de merde? Non, t'as lâché les frôlés. Pourquoi comme taf de merde, tu gagnes 10 000 euros? Laver les toilettes publiques. Le coran, je les lave, je les lèche, je les récure avec des brosses à dents, frère. Non, j'étais malade ou quoi, frère? 10 000 euros.
Et moi, je préfère prendre le SMIC, hein. Avoir des grosses ou des gros seins?
Des grosses fesses, tu me parles de quoi? Y a pas photo, frère.
Tu préfères manger du porc ou plus voir ta mère? À vie.
T'as un instant solide? Dieu, je l'aime bien. Mais ma mère aussi, je l'aime trop.
Tu grailles le porc.
Alain! Qu'est-ce que c'est, attends?
Tu es mignonne ou je suis pas mignonne?
Ouais, t'es mignonne.
Chat, t'es où là? Pourquoi tu me parles pas?
C'est pas un petit truc comme ça, il va nous séparer, tu vois?
Tu fais ça, moi je t'ai fait quoi?
Quatre jeunes, deux garçons, deux filles, d'où viennent-ils? Et là, on arrive à votre activité principale, Lisa Coca. Vous occupez de casting et de coaching d'enfants pour le cinéma, c'est ça? Et c'est là que vous êtes tombée sur ces quatre ados?
Oui, voilà, exactement. Je les ai coachés le temps d'un été dans un long métrage dans lequel les quatre jouaient. Et voilà, sur un tournage, on passe beaucoup de temps aussi en dehors du plateau de tournage, à attendre, à discuter. En fait, au bout d'un moment, j'ai tellement pris plaisir à les écouter parler que je les ai pas mal enregistrés pendant ces semaines de tournage.
Qu'est-ce qu'ils avaient de spécial, ces quatre-là?
Ils avaient un talent pour le verbe, un talent d'éloquence et de vanneur et de tchatcheur. Et voilà, ils étaient si drôles et si vifs d'esprit que moi, j'avais l'impression d'assister à un match de ping-pong tout le temps. Et j'avais envie de capturer ça.
Donc vous enregistrez.
J'enregistrais. Ouais.
Et c'est là que vous arrivez dans l'histoire, Robin Guéret. Comment d'ailleurs? Vous connaissez depuis longue date?
On se connaissait. En fait, on a déjà fait un court-métrage ensemble avec Lise. Donc, quand elle était sur ce film, on était déjà en train d'écrire notre long-métrage. Donc, on échangeait en permanence. Et elle m'a dit faut que je te montre, faut que je te fasse écouter. J'ai trouvé des gamins super.
Donc là, vous aviez visiblement une bonne matière. Il y aurait pu avoir beaucoup de formes avec cette matière-là. Pourquoi choisir la web-série?
On avait envie de... En fait, il y a eu deux choses. Nous, on avait envie de repartir en tournage avec ces enfants-là, donc assez rapidement. Ce format nous donnait envie.
Vous dites enfants puis... encore, à 16 ans?
Oui, ouais. C'est vrai. Mais
c'est vrai, vous les
c'est
considérez
un peu
comme...
enfants. Ouais,
ouais. C'est vos enfants. Vous avez quel âge, toutes les deux?
Moi, j'ai 27.
33.
Oh, c'est vieux.
Non, dit-elle. C'est ouais. Le double de leur âge.
Ouais. Non, et puis on s'est rendu compte aussi que c'était un format. En fait, quand on a fait des répétitions avant d'écrire, on s'est rendu compte que c'était le format finalement qui correspondait bien au débat, à ces débats-là, de tu préfères.
Quelle était votre démarche, Lise? Comment décrire cette démarche? Vous vouliez vraiment capturer et reproduire à la fois le ton, évidemment, et aussi les motifs de conversation de ces ans d'aujourd'hui?
Oui, voilà, on voulait être être au plus près de ce qu'ils sont vraiment dans la vie et de leur vraie qualité, mais aussi, on voulait par-dessus ça construire vraiment une trame dramaturgique qui accroche le spectateur, comme dans une série classique, en fait, avec des personnages qui relationnent, qui évoluent, avec comme support dramaturgique ce jeu, tu préfères, qui, en fait, est un très bon outil pour faire naître le débat et évoquer les sujets importants qui traversent leur vie d'ado, quoi.
Oui, en même temps, c'est ludique.
Et qui traverse la société aussi. Ouais.
Ça sort d'où, le tu préfères? Parce que c'est connu, non ?
Bah ouais, c'est connu. En fait, on y a tous joué, donc c'est.
Nous, on y jouait beaucoup. Ouais, déjà entre nous.
On y joue beaucoup. Eux, ça prend d'autres formes, mais en fait, ils y jouent aussi. Et puis voilà, c'est intergénérationnel.
C'est intersociologique aussi. C'est vraiment un jeu auquel on peut jouer partout, dans n'importe quel contexte, venant de tout milieu, à tout âge. Donc,
On va parler de ce ton particulier dans un instant. Tu préfères la pub ou la pub ? Oh, pas la pub. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Nous sommes toujours en compagnie de Romane Guéret et Lisa Coca pour la série Tu préfères sur arte.fr. Tu préfères avoir des grosses fesses ou des gros seins ? Je ne répondrai pas à cette question. Au début, dans l'histoire des séries pour ados, les séries pour ados à la télé, il y avait ce ton-là.
Mams, t'as pas vu mes affaires de sport ? Je les avais posées là, sur la table.
Pas touché.
C'est pas possible, je vais encore me faire tuer par le prof. Ah, attends, c'est bon, je crois que je les ai trouvés. Bingo, je les ai.
Tu es sûr que tu veux pas essayer ça ? Ça te donne un teint sublime.
Non, merci.
Ma Marc, t'en as pas besoin, t'as de la chance. Comment tu fais pour avoir un si joli pot ?
Bah, je sais pas, tu l'as dit, j'ai de la chance.
Tu peux pas se voir qu'est-ce que c'est de réveiller le matin avec un teint brouillé. Marc, maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai plus d'acné.
Ouais, vous avez oublié les rires, là, dans votre websérie.
Non. Et pourtant, je suis une grande fan de Friends.
Ah, c'est vrai ?
Ouais.
Ouais, mon frère Fred, là, c'était Soda et Hélène et les garçons. Hein. Là, on a complètement et radicalement changé de ton. Vous vouliez ça ? Vous vouliez autre chose ? C'était aussi en réaction de ce que vous aviez entendu, gamine ? Non ?
Ouais, je pense que c'est surtout une passion qu'on a pour un réalisme le plus réel possible et d'être au plus près de ce qui se raconte vraiment, de ce qui se dit vraiment, sans tabou, sans polisser ce qui se dit entre ces ados. C'était vraiment le but.
Mmh. Il n'y a eu aucune censure ou autocensure, parce que parfois c'est vraiment super cash.
Si, autocensure, il y a des sujets sur lesquels ils sont moins à l'aise. D'ailleurs, c'est assez paradoxal, leur aisance sur certains sujets et leur immense pudeur sur d'autres. Il y a des choses sur lesquelles ils avaient... Ça dépend des mœurs, de la culture de laquelle ils viennent, des interdictions parentales. Et par exemple, ça, c'est quelque chose sur... Il y a des choses qu'ils avaient très peur que leurs parents voient. Je pense notamment au baiser, à quand ils s'embrassent. Zach, donc, qui joue Ismaël, il était terrifié que ses parents voient ça. Des choses qu'ils peuvent dire, le fait de fumer la chicha, le fait de tout ça. Voilà.
Ouais, il y a quand même un décalage entre ce qu'on peut entendre, hein, comme je le disais. Ils paraissent libérés quand même par rapport peut-être à des ados du temps passé. Et il reste des craintes enfantines. C'est toujours l'autorité parentale qui joue.
Je sais pas. Je pense qu'il y a aussi effectivement quelque chose lié à l'âge, parce que en fait, ils sont aussi très pudiques de leurs sentiments. Et je pense que ça, c'est parce que à cet âge-là, on n'assume pas encore tout à fait.
Presque plus pudique des sentiments.
Ouais,
que
les garçons, par exemple, avaient beaucoup de mal à discuter des sentiments et de l'amour et du rapport aux femmes et beaucoup plus que au sexe.
Mmh. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on essaye de rendre compte dans la série parce que voilà, ils parlent de sexe, surtout les garçons, hyper ouvertement. On sent qu'ils y connaissent rien, qu'il y a quelque chose de très gamin quoi là-dedans. Et puis après, quand il s'agit de parler de leurs sentiments, du sentiment amoureux notamment. C'est tremblotant, ils sont très vulnérables, très fragilisés. Et ils sont insécurisés à ce moment-là. Quoi.
Et puis dans Tu préfères, on entend aussi sale juive, sale arabe. Et on n'a pas l'impression que ça fasse un drame.
Ouais.
C'est-à-dire
qu'ils se parlent comme ça et qu'ils ont tous les quatre évolué aussi dans un milieu où il y avait où leurs potes étaient des noirs, des juifs, des arabes et où il y a quelque chose qui est délié là-dessus, donc il y a moins de poids. Ils se rendent l'appareil, chacun en prend pour son grade.
C'est ça, c'est que nous, c'était important que tout ça existe, qu'il n'y en ait pas qu'un qui insulte de sale juive. Et fallait que que ce soit vraiment tout soit toutes ces insultes soient représentées dans un sens. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est
égalité dans l'insulte, c'est ça.
C'est ça. Mm-hmm. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'à Place des Fêtes, c'est vraiment un
Place
quartier.
Place des Fêtes, c'est un quartier de Paris, hein, plutôt populaire. Voilà.
Populaire, mais où vraiment il y a une mixité incroyable, quoi, de culture, d'origine. Enfin voilà. C'est, je trouve que c'est
où vraiment les gens vivent ensemble, contrairement à plein d'autres quartiers populaires dans Paris.
Et puis sans doute que le ton vient aussi de la façon dont vous avez tourné. Vous parlez d'improvisation dirigée. Alors là, il faut m'expliquer parce que ça ressemble quand même à un oxymore, non ?
Bah, pas tant que ça. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on a répété en improvisation avec, pendant plusieurs mois avec les ados. Dirigée parce qu'en fait, nous, avec Lise, on a déjà une trame, on a déjà une idée de ce qu'on veut raconter. On a déjà des « tu préfères ». En fait, on met à l'épreuve un petit peu des sujets. On voit ceux qui fonctionnent et ceux qui fonctionnent moins bien. Et puis après, le gros boulot, c'est de tout retranscrire. Donc, toutes ces répétitions, les retranscrire mot pour mot. Et grâce à ces retranscriptions, fabriquer un scénario.
C'est
donc
comme
qui
ça.
Est très écrit finalement.
C'est comme ça que ça
s'est passé. Mais en tout cas, c'est dirigé dans le sens où c'est pas des, contrairement à des comédiens professionnels, on les laisse pas totalement libres d'improviser pendant des heures. Il faut les tenir.
Lise Romane, vous préférez ne plus jamais vous voir dans la vie ou porter un masque dans les lieux clos jusqu'à la fin de votre existence? Ok, réfléchissez.
Merci beaucoup. Vous allez voir toutes les deux.
Ouais. Merci beaucoup d'être passé par Culture Média. Lise Acoca et Romane Guéret, tu préfères sur Arte TV et aussi sur Instagram. Vous trouverez, vous cherchez à suivre deux journalistes qui passent en politique, Laurent Geoffrin et Patrick de Carolis, sont annoncés. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Ça peut marcher dans les deux sens, des politiques qui deviennent chroniqueurs à la télé, Gaspard Kanzer, Raquel Garrigos, avec mention particulière pour Roselyne Bachelot qui vient de faire un aller-retour. Autre mouvement, des journalistes qui se lancent en politique. Nous serons dans 10 minutes avec Patrick de Carolis, élu récemment maire d'Arles. Autre destin. Bonjour Laurent Geoffrin.
Bonjour.
Vous venez de quitter le journal Libération, dont vous étiez directeur de la...
J'ai quitté mes fonctions. Après, pour le reste, on va voir.
Ouais. Mais je vais rappeler que vous étiez donc directeur de la rédaction et éditorialiste. Vous avez lancé hier une association qui deviendra Mouvement pour relancer la gauche.
La gauche réformiste.
Oui, la gauche réformiste, parce qu'il y a plusieurs gauches et que toutes les gauches ne sont pas là. Nous avons une optique média ce matin.
Bien sûr.
Vous y pensiez depuis longtemps à balancer votre carte de presse vieille de 43 ans?
Non, ça fait quelques mois que je réfléchis à la question, justement, parce que... j'ai lu des milliers d'articles, centaines d'articles sur le thème la gauche classique, la gauche réformiste, la gauche qui agit, quoi, qui gouverne, est morte. J'en ai lu plein. Ça m'a énervé.
Vous-même, vous aviez commis un livre il y a longtemps, vous disiez.
Oui, justement, déjà pour essayer de la booster. Et j'en ai lu tellement que ça m'a énervé, et comme c'est mes idées, au fond. J'ai toujours eu cette idée de. J'ai toujours eu la culture politique de la gauche démocratique.
La question, c'était abandonner le journalisme.
Oui, alors évidemment, parce que quand vous êtes journaliste, vous faites un article d'information, vous n'êtes pas censé être partisan, donc c'est incompatible, c'est vrai. En même temps, je vais continuer à écrire.
Dans Libération ?
Je ne sais pas, on va voir.
Non, parce qu'eux, ils ne sont pas très partants, hein, apparemment.
Eux, je ne sais pas qui. Mais vous savez, écrire des chroniques subjectives, des prises de position, il y en a dans tous les journaux, donc bon, pourquoi pas.
C'est ça que vous allez...
ça va se discuter, c'est une chose un peu adjacente et ça se discutera à la rentrée. Je ferai au mieux pour les intérêts de Libération.
Mmh. Le collectif de personnalités que vous rassemblez,
oui.
Je ne sais pas, 150 à peu près.
Oui, enfin, c'est passé à 1000 en une après-midi quand même.
Ah hein. Oui, 1000, ah, c'est oui. Beaucoup 1000, dites donc.
s'appelle enfin, c'est un bon taux de progression en tout cas.
Oui. Ce collectif s'appelle Les Engagés et ES, Écriture Inclusive. C'est ce que vous avez été finalement tout au long de votre carrière,
ben,
Laurent
oui, un
Geoffrin.
Peu.
Un journaliste engagé?
Oui, je crois, parce que j'ai dirigé deux journaux. Pas trois, deux. Le Nouvel Observateur, Libération. Ça correspond à mes idées. Les deux, alors il y a des variantes, et puis dans le temps, ça a évolué. Mais quand on dirige le Nouvel Observateur, journal de la gauche moderne de l'époque, premier hebdo de France quand même. Bon, bah, c'est une forme d'engagement, surtout quand on fait les éditos. Et à Libération, c'est pareil. Moi, je faisais les éditos, je fais une lettre politique quotidienne qui est subjective, qui est engagée. Ce n'est pas des articles d'information ou d'enquête. C'est effectivement, si je faisais des articles d'information en enquête, qu'est-ce que c'est que ça ? J'aurais pas eu cette idée saugrenue. En revanche, on est engagé, effectivement, vous savez, quand vous êtes directeur de journal ou éditorialiste, vous êtes une sorte de personnage public, vous vous faites engueuler tout le temps. Moi, je me fais engueuler toute ma vie par l'extrême gauche et par l'extrême droite. Alors, il y a une différence, c'est que l'extrême droite attaque la gauche et l'extrême gauche attaque la gauche. Donc du coup, j'en prends des deux côtés. Mais oui, c'est un engagement, ça suppose une opposition aussi. Ça
oui,
suppose.
Pourquoi ne pas avoir continué ? Parce que c'est la même chose, que vous soyez engagé dans le journalisme ou engagé
non,
en politique,
pensais qu'il
qu'est-ce
suffisait
que ça change
pas. Je pensais que ça ne suffisait pas d'écrire des articles.
Parce que vous n'aviez pas d'influence ?
Comment ?
Ça ne servait à rien, vous n'aviez pas d'influence ?
Si, je crois que j'avais une influence, parce que la lettre que je fais, elle est ouverte, comme on dit, vous savez, dans le jargon numérique, par beaucoup de gens, et j'ai eu beaucoup de retours. Mais il s'agit de passer à une influence concrète, pas seulement sur les esprits, mais il s'agit de participer à une construction, à une stratégie qui me paraît la seule possible pour que la gauche gagne, c'est-à-dire que son aile réformiste soit refondée.
Mmh. Vous avez 68 ans, Laurent Geoffrin, c'est pas vrai ? Non, parce que vous faites la moue.
Comment ?
C'est vrai, vous êtes.
Oui, c'est vrai. Non, je dis, c'est pas si vieux.
Ah non, je n'ai pas dit que
c'était
vieux.
Mais en politique, je suis très jeune.
Oui, c'est vrai. Pour la politique, c'est jeune. Mais il n'y aura pas de retour. Vous quittez le journalisme, c'est définitif.
Bon, j'en sais rien. La vie est très longue.
Oui, mais vous croyez qu'on vous laissera ? Que ce n'est pas fini pour vous ? Qu'il y a un possible retour ?
Je peux faire mon journal à ce moment-là.
Oui, votre feuille de chou.
vous êtes très énorme, merci.
certains de vos confrères sont assez narquois, hein, singulièrement votre ancien journal Libération. Mm-hmm. Hein, le surtitre du papier consacré à votre initiative, mm-hmm. c'était Start-up. Donc un terme quand même qui correspond
oui,
pas forcément...
Oui, ça c'est Libé, c'est normal. C'est Libé, heureusement qu'ils font des titres ironiques, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Donc.
Ouais. Et puis il y avait aussi un dessin, vous l'avez vu, le dessin de terreur graphique, on vous reconnaît, ouais. Entouré de Daniès Jaoui ou de l'urgentiste Patrick Pelloux, avec ce commentaire, avec cette bulle, hein, on avait déjà le caviar, ne manque plus que la gauche. C'est drôle ou pas ?
Oui, c'est drôle, bien sûr, c'est drôle. Enfin, c'est drôle, oui. C'est injuste,
pourquoi ?
Je dirais. Je pas de caviar, moi, pas de caviar. Pas le genre caviar.
Mais quel genre alors ? Gauche quoi ?
Gauche réformiste, je vous dis, il faut la refonder. Mm-hmm. C'est l'urgence de l'heure.
Alors dans pas mal de papiers aussi, on lit que vous êtes en train de préparer le terrain pour le retour d'un de vos amis de 40 ans qui s'appelle François Hollande.
Mais je crois que si ce terrain se prépare, c'est lui qui va s'en occuper, pas moi.
C'est-à-dire ?
Mais parce que
vous ne faites pas ça pour lui ?
Mais non, je fais ça pour cette gauche-là qui était en difficulté, qui l'est moins d'ailleurs depuis... D'ailleurs, regardez le commentaire journalistique. Pendant des années, on dit c'est mort. Depuis les municipales, d'un coup, hop, ça revit. C'est quand même marrant, ça. Moi j'ai dit que ça allait pas mourir, que ça allait continuer. Et j'étais tout seul. Enfin, je prêchais dans le désert. Je suis plus dans le désert. C'est
oui,
bien.
Pour votre association qui deviendra mouvement, il faudra bien être incarné par quelqu'un. Et pourquoi ce serait pas François Hollande ? Pourquoi vous ?
Mais non, parce que ça, c'est les affaires de la gauche en général et des partis en général. En plus, c'est prématuré. Personne n'est en situation aujourd'hui.
Donc c'est
pas... Vous connaissez quelqu'un qui est en situation de dire « Voilà, moi je serai le candidat ou la candidate ?» Moi, j'en connais pas.
Mais c'est pas impossible.
Et Hollande, certainement pas. Et qui va décider ? C'est pas moi. C'est pas le mouvement que je vais créer qui va décider tout d'un coup que ce sera un tel ou une telle. Ça va se décider, peut-être qu'il y aura des primaires, peut-être qu'il y aura un autre processus. C'est une espèce d'alchimie qui est assez complexe, que vous connaissez par cœur d'ailleurs. La sélection des candidatures à la présidentielle se fait en gros un an avant. Bon, il y a des gens qui préparent ça en secret, plus ou moins, j'en sais rien. Mais ça se fait un an avant. Là, on est deux ans avant. Donc on a un an pour... Il faut mettre les choses dans l'ordre. Il faut d'abord que, un, les idées, et deux, la stratégie soient mises au clair. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mmh. Donc c'est pour ça que je m'engage dans cette aventure.
Mais c'est bien une plateforme pour quelqu'un. Au final, il faudra bien une candidature. Ce ne sera pas vous. Vous ne serez pas candidat.
Je ne suis candidat à aucun mandat électif.
Mmh. Mais ça peut être très bien François Hollande.
Mais je n'en sais rien, mais ce n'est pas moi qui vais décider, encore une fois.
Mm-hmm.
Mais vous savez, il y en a d'autres. Hein. Je ne crains pas le vide, hein. Je crains plutôt le trop-plein. Là.
Ah ouais ? C'est qui les autres ?
Vous les connaissez.
Bah non, dites-moi.
Bah, il y a les gens dont on parle, mais je ne vais pas faire une liste, parce que ça va encore faire des commentaires, mais alors, c'est lui. Je n'en sais rien. Et il y aura beaucoup de candidats, et il faudra choisir. Voilà.
Que répondez-vous, Laurent Geoffrin, à ceux qui disent une telle porosité ? Entre journalisme et politique, c'est ça qui contribue à éroder la confiance du public envers les journalistes.
Je réponds que quand j'étais directeur de l'Observateur ou de Libération, on a gardé à chaque fois notre indépendance de vue et notre sens critique à l'égard de tous les hommes politiques. Vous savez, trois mois après la victoire de François Hollande, hein, puisque vous en parliez, l'Observateur a titré « Sont-ils si nuls ?» Pas très gentil. Alors, parce qu'au début, ils voulaient mettre « Ils sont nuls ». J'ai dit « Non, quand même, il ne faut pas exagérer ». Donc on a mis un point d'interrogation. Enfin, ce n'est pas très aimable.
Mais vous savez bien que l'impression existe.
J'ai été le premier, vous pouvez vérifier, je crois, le premier éditorialiste à critiquer ou à condamner la mesure sur la nationalité de Hollande, justement. Donc, quand on est dans un journal, c'est d'ailleurs assez confortable d'une certaine manière. On critique les gens qu'on estime devoir critiquer. On n'est pas au service de l'un ou de l'autre.
Donc il n'y a pas de porosité, c'est pas le même monde finalement.
Non, c'est une erreur. C'est pas le même. Ce sont des gens qui se fréquentent. Heureusement, il y a un journaliste qui veut avoir des informations sur la vie politique. S'il voit pas d'homme politique, il est nul. Donc il faut bien qu'il se fréquente. Mais c'est pas du tout la même logique. La logique d'un journal ou d'une radio, d'ailleurs, c'est de plaire à ses lecteurs ou à ses auditeurs. Et la logique d'un homme politique, c'est de faire carrière. C'est deux choses tout à fait différentes. Et si vous écoutez les hommes politiques sur les journalistes, quels sont les mots qui reviennent le plus souvent? Les hyènes, les loups, les rapaces, je ne sais quoi. Enfin, ils ont une vision du journalisme extrêmement négative. Donc, on ne peut pas dire que c'est le même monde.
Merci beaucoup, Laurent Geoffrin, d'être passé par Culture Média. Dans deux minutes, on va parler avec l'ancien journaliste Patrick Carolis, qui a été élu, lui, maire d'Arles. Merci, bonne journée.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média.
Seconde histoire d'un passage du journalisme à la politique. Après Laurent Geoffrin, voici un ancien PDG de France Télé qui présenta jadis des racines et des ailes et qui vient d'être élu maire. Bonjour Patrick de Carolis.
Bonjour.
Vous êtes dans votre bureau à la mairie d'Arles, là ?
Absolument, la fenêtre ouverte sur la place de la République.
Et vous vous pincez encore ?
Non, pas du tout. C'était un souhait de jeunesse. Et c'est une ville qui m'a toujours habité, Arles. Et c'est pas une lubie de la dernière minute. C'est quelque chose qui m'a constitué, je dirais presque cette ville. Si j'ai fait la carrière en télévision que j'ai pu faire, si j'ai été intéressé par l'histoire, le patrimoine, la culture, je pense que c'est cette ville qui me l'a donné dès mon enfance.
Vous parlez d'un souhait de jeunesse, Patrick de Carolis, ça veut dire que déjà vous envisagiez un jour, vous ne saviez peut-être pas quand, de tenter de décrocher cette mairie d'Arles.
Oui, je pense que c'était ancré en moi. Je ne l'avais pas inscrit dans une sorte de challenge politique ou de parcours politique. Moi, j'ai fait ma carrière journalistique, et puis cette carrière journalistique terminée, j'ai dirigé après un musée, et puis voilà, je suis revenu vivre dans ma ville natale. Et c'est un citoyen, c'est le fils c'est le fils du pays qui est là et qui se dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain pour ma ville. Et donc c'est un engagement citoyen. C'est pas une nouvelle carrière politique qui s'offre à moi. Je la vis pas comme ça et je ne la souhaite pas comme ça.
Alors je précise que vous avez été élu sous l'étiquette divers centres que je ne connaissais pas.
Ben, moi non plus, je me suis présenté comme sans étiquette, mais le sans étiquette n'existe pas, paraît-il, pour une élection, donc on m'a mis divers centres parce que j'avais à la fois des gens de gauche, des gens de droite sur ma liste, et que voilà, j'avais en face de moi des LR, j'avais en face de moi le Front National, j'avais en face de moi un parti communiste, et moi j'ai voulu me présenter comme un citoyen qui avait envie de faire autre chose, une autre politique, peut-être plus... retrouver le vrai terme du mot politique. C'est la politique de la cité. C'est ça qui m'intéresse, c'est de me mettre au service de cette cité.
On a lu ici ou là que c'était une idée de Bernadette Chirac qui vous a incité à vous lancer en politique. Vous aviez écrit avec elle le livre Conversation. À votre niveau, puisque vous avez été PDG, Patrick de Carolis, on fréquentait forcément le monde politique ?
Forcément. Mais je pense que j'ai écouté votre conversation avec Laurent Geoffrin et ce qu'il dit est tout à fait vrai. On ne peut pas être journaliste si on n'a pas un carnet d'adresses et ce serait une faute professionnelle de ne pas l'avoir. Donc, être journaliste, c'est être au plus près de l'actualité, réagir à l'actualité. Et si vous voulez réagir à l'actualité, il vous faut trouver la bonne personne au bon moment qui vous donne l'information la plus proche de la vérité. Et donc, vous devez avoir ces contacts-là. Après, c'est à vous à mettre de la distance, à vous à mettre cette frontière entre complicité et professionnalisme. Ouais, je pense qu'un journaliste ne peut pas s'empêcher d'avoir des contacts. C'est pas possible.
Sauf que là, on parle de consanguinité, on parle de gens qui vivent dans le même monde, qui se fréquentent, et c'est vrai que tout ça ne contribue pas à donner de la confiance envers les journalistes. Vous savez bien que les gens sont de plus en plus méfiants. Vous comprenez pourquoi, quand même.
Absolument. Mais je comprends aussi parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui font des erreurs. Voilà.
Comme quoi
est-ce que vous voulez qu'on se rappelle et qu'on remémore l'affaire Baudis? Est-ce que la presse a été exemplaire sur Dominique Baudis? Je pense pas. D'ailleurs, il y a eu des mea culpa, et normal. Donc la presse ne dit pas toujours la vérité ou ne fait pas toujours très très bien son métier. Y a des très bons journalistes et puis il y en a d'autres qui sont des journalistes qui vont un peu dans le sens du vent. Mais c'est à la profession à remettre un peu, je dirais, d'ordre là-dedans.
Patrick de Carolis, vous êtes maintenant élu maire d'Arles, mais est-ce que ce n'est pas plutôt le journalisme qui vous a quitté, hein? Je rappelle que vous avez été condamné en marge de l'affaire Big Malion pour favoritisme. Et à ce moment-là, vous aviez dû arrêter de présenter Des Racines et des Ailes. Ça s'est passé comme ça, non?
Oui, ça s'est passé comme ça. Là où on est dans l'amalgame, vous voyez, dès qu'on prononce l'affaire Big Malion, on est déjà dans une sorte de liaison avec l'affaire Big Malion du président Sarkozy. Vous voyez, moi, c'était une affaire administrative. Voilà, j'ai été patron de France Télévisions. Il y a eu une erreur administrative de commise. J'en ai pris la responsabilité, ma part de responsabilité. Et puis voilà, et je me suis présenté d'ailleurs aux Arlésiens avec cette condamnation. J'ai pas fait appel en cassation en me disant ça sera après. Non, j'y suis allé frontalement en disant voilà, oui, il y a eu une erreur de commis, j'en ai pris toute ma responsabilité. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, donc voilà, je pourrais dire, c'est une tâche dans mon CV, oui, mais bon, comme je l'ai souvent dit, cette tâche, c'est une sorte de confetti par rapport au reste de ma carrière, voilà, mais c'est une erreur. Il y a eu une erreur administrative et je l'ai entérinée, je l'ai notée. Et justement, je me suis présenté avec devant les Arlésiens.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne, Patrick de Carolis. Merci.
C'est un plaisir de vous retrouver et de retrouver votre voix et votre énergie.
Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire.
À bientôt.
Nous avançons doucement vers 10h dans la seconde partie de Culture Média. Nous serons avec le chanteur Hervé. Premier album Hyper que vous allez découvrir. Et puis, indispensable, Margon Barallon nous parle de la série Normal People. Ne quittez pas, à tout de suite.